Vacances. Le voici arrivé, le moment tant attendu.
Quand faut y aller. Merde.
Il y a eu du soleil, alors je suis descendu.
Y a des soleils, y a des nanas.
Cinérama.
Je vais vous tenir au courant des mesures qu'on va prendre.
À mon avis, il y aura des ouvertures.
Génial.
Je ne m'attarderai pas en vaine palabre. Je serai bref et précis. Je ferai feu à bout portant.
Tu pars pas en vacances?
Non, pourquoi?
Pas possible.
Nous dépendons énormément de la saison d'été. C'est vital.
C'est le seul point noir au tableau.
Je m'en fous.
Tout l'été. Cinérama, blind test et actualité du cinéma.
Ouais, jamais très original dans ces moments-là. T'sais.
This is Cinérama.
Bonjour et bienvenue. Comme promis, Cinérama revient avec ses trois séries estivales. Une sur le générique que je vous propose. Et puis vous, messieurs, vous en avez chacun une. Alors toi, Guillaume, tu nous ressors des films d'anticipation qui parlaient de 2024.
C'est ça. C'est comment est-ce qu'on voyait le futur dans un futur plus ou moins proche ou lointain, hein, suivant quand est-ce qu'est sorti le film. Et aujourd'hui, je vais vous parler d'Highlander 2.
Et oui, qui n'a pas laissé insensible un bon nombre de spectateurs. Et quant à toi, Manu, un film fantastique français réalisé par une femme.
Oui, donc qui correspond donc à un cycle, hein, puisque tout l'été, je vous parlerai de 7 films réalisés par une femme français. Le premier qui inaugure la série, c'est donc Innocence de Lucille Adzi Halilovic.
Alors, comme nous avons un peu de temps, nous réécouterons un ancien blind test autour des films traitant de près ou de loin de l'esclavage. Mais nous commençons cette émission estivale avec le générique.
Vous avez vu un bon film aujourd'hui ?
Cinérama. Cinérama.
Eh bien, oui, je crois que oui.
La semaine dernière, nous avons vu que le générique n'avait pas beaucoup évolué avant les années 50, hein, même si Fritz Lang avait tenté quelque chose dans les années 30 avec M le Maudit, en plaçant un dessin avec une main marquée d'un M annonçant ce que nous allions voir. Le générique restait quand même très informatif. Mais avant de voir comment le générique de début a été révolutionné, voyons comment certains s'en sont passés ou l'ont escamoté. Alors l'exemple le plus célèbre est Apocalypse Now en 1979. Le film débute avec un bruit de pales d'hélicoptère avant que n'apparaisse en fond sonore la chanson des Doors qui s'intitule This is the End, un comble pour un début, non? Et puis pile au moment où Jim Morrison prononce ses paroles, eh bien le napalm s'abat sur la forêt vietnamienne. This is the end, beautiful friend. This is the end, my only friend, the end. Of our elaborate plans, the end of everything that stands, the end, no safety, no surprise, the end, I'll never look into your eyes again. Alors on pourra toujours attendre le titre du film, il ne viendra pas. Qui réalise, qui produit, quels acteurs allons-nous voir? Il faudra attendre la fin pour le savoir. Mais ce générique est en fait un pré-générique, hein, une séquence qui nous prépare à ce que l'on va voir. En 7 minutes 30, nous passons du napalm à la chambre où se trouve le personnage de Martin Sheen qui nous explique plus ou moins les enjeux narratifs, hein, qui vont se déployer par la suite avant que les Doors ne réapparaissent en fond sonore et que le noir laisse place au véritable début du film.
Merde. Je suis encore à Saïgon. Chaque fois, je crois que je vais me réveiller là-bas, dans la jungle. À mon premier retour aux États-Unis, c'était pire. Là-bas, je me réveillais. Et rien. Le seul moment où j'ai parlé à ma femme, c'était pour dire oui au divorce. Quand j'étais ici, je voulais être là-bas. Et quand j'étais là-bas, je ne pensais qu'à retourner dans la jungle. Ça fait une semaine que je suis là. À attendre une mission, à m'avachir. Plus je reste dans cette pièce, plus je m'affaiblis. Les Viettes, eux, plus ils se terrent, plus ils se renforcent. chaque fois que j'ouvrais les yeux, les murs se resserraient autour de moi.
Donc oui, Apocalypse Now ne propose pas un générique conventionnel, mais il propose ce que tout bon générique devrait faire, une entrée dans l'œuvre qu'on va voir, faute de proposer un seuil entre l'instant de la salle et celui de la fiction, comme me l'avait expliqué un jour le comédien et réalisateur Lucas Bellevaux, ce fameux seuil. Alors, autre film sans générique, Gangs of New York, mais contrairement à Coppola, Scorsese a consenti à faire apparaître le logo de deux studios qui ont produit son long métrage. Alors ça étonnera moins Lars von Trier avec son Dogme ne fait pas de cas du générique de début. En France, Philippe Grandrieux, avec son film Confidentiel sombre, a lui opté pour un générique qui fait apparaître le titre de son film en gris foncé sur une image assombrie. Alors autant dire qu'on ne voit pas grand-chose, mais là encore, aucune mention des comédiens et même du réalisateur. Alors cas un peu à part, le début de l'Odyssée 2001 de l'espace de Stanley Kubrick, le noir laisse la place à des planètes dans l'espace qui se superposent hein, sur la musique de Strauss avant que n'apparaisse au bout de 40 secondes le studio, le nom de Kubrick et le titre du film. Et puis éloignons-nous un peu de 1969 et arrivons en 77 avec George Lucas qui propose lui aussi un générique qui bouleverse les habitudes puisque le film commence avec le titre en gros, la musique de John Williams et le long texte introductif qui explique la situation dans l'espace à une époque qui ne sera d'ailleurs pas indiquée. Là encore, pas de nom de réalisateur, ni de technicien ou d'acteur. Alors, il y a eu des plaintes du syndicat des techniciens, mais comme beaucoup ne croyaient pas au potentiel du film de Lucas, eh bien, le réalisateur a pu conserver ce mode opératoire. Mais à noter quand même que pour l'Empire contre-attaque, le réalisateur américain a été obligé de leur payer une amende de $250,000, bon, ce qui a présenté une petite somme par rapport à tout ce qu'a pu engranger le deuxième long métrage de la série Star Wars.
Oui, tu disais un truc très intéressant sur le terme de Lucas Bellevaux, sur le seuil, pour faire rentrer le spectateur. Moi, il y a un exemple que j'aime beaucoup. Alors, ce n'est pas un générique de début, hein, mais c'est une introduction au spectateur dans la salle. C'est le cas du Dracula de 1931 de Todd Browning, où on a un homme qui apparaît sur scène et qui invite les spectateurs à se préparer au spectacle qu'ils vont voir, que ça va peut-être les effrayer, les inquiéter. Et étant donné qu'il est habillé un peu en monsieur loyal devant un rideau, ben, le fameux rideau du cinéma qui va libérer l'écran en fait, pour les spectateurs, il y a un côté sympa, je trouve, entre la tradition foraine du cinéma et le fait de nous faire rentrer dans un spectacle qui va être très impressionnant et du jamais vu pour l'époque.
C'est une chose intéressante. Alors évidemment, j'ai écarté de nombreux génériques. Quand je disais que dans les années 30, il n'y avait pas de générique intéressant, forcément, il y avait des petites choses comme ça intéressantes à puiser parce que j'imagine que certains réalisateurs se préoccupaient de comment intéresser finalement le spectateur. À noter aussi que sur les films qui n'ont pas de générique de début, il y a beaucoup de films à gros budget américain qui se passent complètement du générique, qui se contentent juste de mettre le titre du film après un prologue. Pirates des Caraïbes, enfin il y en a plein d'autres. Beaucoup de films de saga, Dune par exemple, c'est aussi le cas où on voit juste le titre du film qui apparaît au bout de 10 minutes. Voilà. Nous reparlerons générique la semaine prochaine, mais nous allons passer maintenant à la série concernant alors les films d'anticipation qui traitaient de l'année 2024. Et c'est un gros morceau puisque nous parlons de Highlander 2.
Avec vous, c'est du travail soigné.
Cinérama.
Ça, c'est clair.
Alors, gros morceau, en effet. Alors, gros morceau, on se comprend. Hein. Il faut surtout se rappeler que, bon, voilà, quand on se paie un succès, il faut s'attendre forcément à l'inévitable suite. Alors, depuis les années 60, avec Les Sept Mercenaires ou La Planète des Singes, et surtout depuis la toute fin des années 70, hein, avec les suites de La Guerre des Étoiles, hein, qui va ouvrir le bal d'une décennie qui va largement capitaliser sur les suites, la pratique a beau se démocratiser, l'exercice est quand même toujours délicat. Alors, surtout que Highlander, le film dont on va parler aujourd'hui, c'est un film qui sort un peu de nulle part, hein, qui ne ressemble pas vraiment à un autre, et qui avait une conclusion définitive. Car l'histoire de Conor MacLeod, écossais du 15e siècle, qui découvrait après une blessure mortelle sur un champ de bataille qui pouvait justement défier la mort, se terminait par la disparition de ses pouvoirs. Lorsqu'on arrive dans la configuration du « il ne peut en rester qu'un », soit les deux derniers immortels qui s'affrontent, le gagnant emmagasine tout le pouvoir du vaincu et puis redevient mortel. Alors enfin libre de cette malédiction, MacLeod pouvait enfin vivre son histoire d'amour sans crainte de voir son aimé dépérir sous ses yeux et couler enfin des jours heureux. Mais ça, encore une fois, c'était jusqu'à ce qu'un gros succès frappe à la porte, l'obligeant de reprendre sa lame pour se défendre contre une nouvelle menace.
Le bouclier. Il y a 25 ans, il était notre sauveur. Mais maintenant, plus de soleil, plus d'étoiles. Rien que la chaleur et l'humidité. Ce qui évacue l'énergie du monde entier. Nous nous désintégrons. Nous régressons. Vieilles voitures. Vieux avions, vieux rêves. Le remède est pire que le mal.
Je n'ai pas peur des mots. Alors pour moi, Highlander de Russell Mulcahy est un petit chef-d'œuvre. Sorti en 86, il a passionné toute une génération qui découvrait la mise en scène stylisée d'un Australien un peu fou qui avait signé auparavant le brillant Razorback, soit la version bush australien des Dents de la Mer, mais en remplaçant le requin par un cochon géant. Alors Highlander, c'est génial parce que c'est la rencontre la plus pure entre la mise en scène de cinéma et la mise en scène de vidéoclip. Il y avait déjà eu des réalisateurs qui étaient passés avec succès du petit au grand écran et qui avaient fait naître cette esthétique que l'on pourrait qualifier de MTV. Je pense par exemple à Tony Scott ou encore à Adrian Lyne, avec des titres comme Les Prédateurs ou Flashdance. Mais Mulcahy va encore plus loin dans le mariage des genres, au point de confier la bande originale de son film au groupe Queen. Alors, même s'il y a une très belle musique signée Michael Kamen, pour beaucoup, le véritable album du film, c'est A Kind of Magic de Queen, qui rassemble tous les morceaux entendus de Who Wants to Live Forever à l'éternel Princes of the Universe. It's a kind of magic. It's a kind of magic. A kind of magic. One dream, one soul, one prize, one goal, one golden glance of what should be. It's a kind of magic. One shaft of light that shows the way. Et puis, il y a l'histoire du Highlander, Conor MacLeod, interprété par un touchant et magnétique Christophe Lambert, sortant alors des cartons de Greystock et de Subway, et qui ne savait pas encore qu'il était à l'apogée de sa carrière internationale. Accompagné par Sean Connery, jouant le rôle de Juan Sanchez Villalobos Ramirez, il va traverser 500 ans d'histoire à la pointe de son épée, se cachant des immortels trop curieux de peur d'attirer des immortels cruels, cherchant à le décapiter pour ses pouvoirs et ainsi gagner le prix. Si le film n'est pas forcément un succès énorme partout à sa sortie, il atteint très très rapidement un statut culte, une fois devenu un hit de vidéoclub, et une suite s'impose donc.
Souviens-toi, Highlander. Souviens-toi de ta patrie, une autre galaxie. Tu as été choisi. Te souviens-tu?
Oui. Oui, je m'en souviens. Zeist, le commencement. Il y a 500 ans. Sur la planète Zeist. Nous
préparions une rébellion. Nous nous voyons en secret, en faisant toujours attention d'éviter notre ennemi mortel, le général Katana.
En 94, Connor McCloud, désormais mortel, promet à sa femme mourante, Brenda, de protéger le monde des rayons de soleil devenus nocifs pour les humains. En 99, le même McCloud, devenu un éminent scientifique, supervise la conception d'un bouclier laser destiné à protéger la Terre des rayons du soleil, après la destruction de la couche d'ozone. Voilà pour la vision du futur dans ce film qui est maintenant un petit peu... passé. Le projet est un succès. Grâce à ce bouclier, la Terre est sauvée, mais l'humanité va bientôt être asservie par une puissante entreprise qui s'occupe du bouclier et oblige la population à payer un impôt pour pouvoir en bénéficier. Bon là, finalement, on revient dans le crédible. En 2024, la planète est depuis 25 ans sous le bouclier. C'est alors que le général Katana, un immortel vivant sur la planète Zeist, planète d'origine de tous les immortels, envoie sur Terre deux immortels pour qu'ils tuent McCloud. Ce dernier va récupérer ses pouvoirs et sa jeunesse en tuant ses sbires, et va même voir Ramirez, qui avait été décapité par le Kurgan dans le premier film, revenir pour l'assister.
Au fait, comment marchent les affaires du bouclier ?
De mieux en mieux.
Ça doit être génial, non, d'avoir comme client de votre société toutes les nations du monde.
C'est autre chose qu'un commerce. Nous avons une mission qui est de protéger les populations de la planète de la mort que provoqueraient les radiations solaires. C'est un service que nous rendons à l'humanité. Vous n'êtes pas d'accord ?
Tant que ce sera nécessaire.
Pardon ?
Eh bien, peut-être qu'un jour, la couche d'ozone se reconstituera toute seule.
Oui, ce serait vraiment un grand jour pour l'humanité tout entière. Mais cela ne pourrait rien changer à présent, sachant que votre bouclier durera à tout jamais.
Oh, rien ne dure à tout jamais.
On le voit, il n'y a absolument rien qui rend compréhensible cette suite, car en plus de casser tous les codes de la mythologie mise en place, les actions comme le retour de Ramirez sont entièrement dictées par des décisions n'ayant rien à voir avec les envies ou la logique. Le scénario déplaît fortement à Christophe Lambert, qui veut quitter le projet. Mais en raison de son contrat, il est obligé de s'y tenir. Il insiste donc pour que Sean Connery fasse acte de présence, alors que le scénario original ne prévoyait pas le retour de son personnage. Et ce dernier sera payé 3 millions de dollars pour seulement 6 jours de tournage. Mulcahy, qui était revenu pour cette suite, désavouera le film, mais aura la possibilité de revoir le montage par deux fois, rendant un poil moins gênant le visionnage, mais ne pouvant gommer ses plus gros défauts. Alors la seule chose qui restera, c'est le rapport avec la grande inquiétude des années 80 sur le futur, à savoir la destruction de la couche d'ozone. On voit aujourd'hui à quel point le film était visionnaire, au point de ne pas anticiper la lente et triste dégringolade qualitative de cette saga pourtant fort sympathique. Il ne peut en rester qu'un, ça sera bien sûr l'original.
Merci Guillaume, pour ce retour sur Highlander 2. Alors c'est maintenant le moment, blind test. J'ai ressorti des archives de Cinérama, un blind test que nous avons fait il y a très longtemps autour des films traitant de l'esclavage. On écoute.
Cinérama.
Il est votre sac.
Interview, chronique, blind test et tout le reste.
Est-ce que je suis clair ?
On va donc essayer de découvrir des films qui traitent de l'esclavage. On commence par un facile.
Réfléchissez. La seule possibilité d'acheter ou de vendre des esclaves, c'est qu'ils soient venus au monde, esclaves, par exemple, sur une plantation. C'est bien cela, n'est-ce pas ?
Oui.
Bon, alors le sont-ils ?
Le sont-ils ?
Oui. Sont-ils venus au monde esclaves sur une plantation ?
Nous n'en sommes pas tout à fait sûrs, mais nous pensons que non.
Bien, ce sont des esclaves. S'ils le sont, ce sont de simples biens et ne méritent pas plus un procès pénal qu'une bibliothèque ou une charrue. Et nous pouvons tous rentrer chez nous. D'un autre côté, disons que ce ne sont pas des esclaves. S'ils ne le sont pas, ils ont été acquis illégalement, n'est-ce pas ? Oubliez la mutinerie, la piraterie, oubliez le meurtre et tout le reste. Ce sont des événements hors de propos et postérieurs. Ignorez tout sauf la véritable origine de l'affaire. Le transfert injustifié de biens volés.
Voilà, donc ça c'était facile, Manu, c'est...
Amistad de Spielberg.
De Spielberg, en 97. Deuxième extrait.
N'avons-nous donc rien appris ? Que devenons-nous ? Nous cherchons du vin alors que nous n'avons pas de pain.
Lorsqu'on a du vin, on peut se passer de pain.
Vous n'allez pas tous devenir des ivrognes et des bandits.
Que veux-tu que nous soyons d'autres ?
Des gladiateurs. Une armée de gladiateurs. Une armée comme il n'y en a jamais eu.
Eh oui, c'est Kirk Douglas, Manu. Donc c'est
Spartacus.
Film de Stanley Kubrick qui a remplacé Anthony Mann, qui ne faisait pas l'affaire selon Kirk Douglas, qui produisait le film. Un autre extrait.
Regardez-le bien, j'ai l'impression qu'il vous répond.
Il a un don d'imitation assez remarquable, en effet.
Il n'est pas du tout comme les autres. Il se sert de cette vieille couverture comme vêtement. Je me demande ce qu'il donnerait si on lui faisait passer le test d'Hopkins sur l'habileté manuelle.
Pour un animal.
Regardez, il bouge ses doigts.
Simplement parce qu'il vous a vu bouger les vôtres.
Oh, mais il a peut-être compris.
Sottise, l'homme est incapable de comprendre.
Ça, c'était facile.
La planète des singes, hein, la première version de Franklin J. Schneffer. Mmh.
Avec Charlton Heston qui se fait examiner. Et voilà où on s'amuse eh bien, à mettre les hommes en état d'esclavage. Un film assez étrange cette fois-ci.
Vous êtes une crapule!
J'ose dire que je ne fais pas ça de gaieté de cœur, mais je vous prends tous à témoin. Affirmez-vous expressément que vous vous appelez bien Amanda Starr.
Oui, c'est ainsi que je m'appelle.
Amanda, il a été affirmé et juré sous la foi du serment que vous êtes issue d'une esclave nommée Louisa. Cette esclave était la propriété de Aaron Pendleton, décédé. Étant issue d'elle, vous êtes déclaré par la loi de cet état comme faisant partie des biens de Starwood et assujetti à toute réquisition sur ce domaine.
C'est un réalisateur, Manu, disais-je, qui fait plutôt dans le western d'habitude.
Mais j'ai pas trouvé.
Alors, c'est L'Esclave libre de Raoul Walsh, et c'est un film de 57. Film assez étonnant, hein, parce que l'héroïne qu'on entend est tout à fait blanche, et pourtant, elle est le fruit d'une union entre son père qui était blanc et une esclave noire. Mais elle est parfaitement blanche, absolument pas métisse. J'avoue que j'ai pas trop compris. Mais bon, voilà, visiblement, ça passait très bien.
Les métisses dans les films américains, surtout dans les années 40-50, ils sont blancs. Hein.
Oui, voilà.
C'est un peu le cas dans La Prisonnière du désert aussi, où l'Indienne ressemble pas du tout à une indienne, à part ses nattes. C'est quand même
c'est ça qui a dû perturber Michael Jackson. On écoute un extrait.
Tu m'as demandé ce que je voulais. Je veux moi aussi être amené devant l'empereur. Comme toi.
Alors écoute-moi. Apprends de moi. Je n'étais pas le meilleur parce que je tuais plus vite. J'étais le meilleur parce que la foule m'aimait. Gagne la foule.
Alors, cette fois-ci, c'est
Gladiator.
Ah oui, avec Maximus, hein, autre film. Alors là, on sent tout de suite le côté hollywoodien actuel avec la musique
aussi,
très présente.
C'est la musique
voilà.
d'Hans Zimmer qui m'a donné la puce à l'oreille d'entrée.
Alors, on termine avec un film très contemporain.
Le savoir est un miroir. Pour la première fois de ma vie, j'ai eu la possibilité de voir qui j'étais et ce que je pouvais devenir.
Va laver la pissotière.
Bonjour, commandant.
Le jour serait meilleur, mon cher queue de plume, si vous alliez vous faire foutre ailleurs.
Hélas, je ne peux vous donner cette satisfaction. Car dès lors, je ne pourrai pas vous informer du passager clandestin que j'ai découvert en mes quartiers.
Un clandestin ?
Ce choix n'était pas le sien, je vous l'assure. L'homme m'a certifié qu'il était un marin de première classe, capable de gagner son passage si vous lui offrez sa chance.
Un clandestin, c'est toujours un clandestin, même s'il chie des pépites en argent.
Manu, t'as trouvé ?
Claude Atlas. Voilà, les frères et sœurs.
Frères et sœurs Warchowski. Effectivement, film sorti en 2013, une fresque avec plusieurs périodes. Là, on entend effectivement une période où voilà, c'est né au Séoul avec cette esclave qui est sortie de son contexte, une esclave plus ou moins, une serveuse avec un côté un peu sexuel. Et puis, on est aussi dans une autre période, le 18e siècle, où il y a encore l'esclavage de vigueur. Voilà, plusieurs temps. Ainsi s'achève ce Blind Test.
This is Cinerama.
Après cette rediffusion de Blind Test, place à 2024, et à l'été 2024, avec la dernière série de cette émission, celle sur les films fantastiques réalisés par des réalisatrices françaises.
Comment faites-vous pour choisir un film ?
Cinerama.
Qu'est-ce que vous voulez dire par là ? Précisez.
Alors, premier film consacré au cycle des réalisatrices françaises ayant abordé le fantastique, hein, Innocence ne rentre pas vraiment dans une catégorie, et puis pose quand même une question légitime. Est-ce une œuvre à classer dans le genre ? Alors oui et non, hein. L'histoire nébuleuse s'émancipe du côté de l'inconnu, alors loin de toute tentation réaliste et cartésienne, et se réfère surtout à une famille de cinéastes qui rêvent hein, de Dario Argento à Peter Weir, en passant par Jean Rollin. Voilà. Dans une forêt éloignée de tout, hein, une école enseigne à de très jeunes filles les sciences naturelles et la danse. De nouvelles recrues vont découvrir les étranges rites qui animent cet établissement pour le moins insolite, situé dans un espace-temps indéfinissable.
Comment tu t'appelles ?
Iris.
Bonjour Iris. Voici Nadia, Rose, Vera, Alice et Selma. Et moi je suis Bianca.
Lucile Hadzi Halilovic n'a pas choisi la facilité pour son premier long, hein, après un moyen métrage remarqué, La bouche de Jean-Pierre. Alors, tenter de capter l'indicible, les sensations issues de l'enfance, les premiers désirs et les jeux cruels, à travers un récit abscons où chacun est libre d'interpréter ce qu'il veut comme il l'entend. Alors, disons-le d'entrée, hein, dans cette œuvre placée sous le signe du mystère et de l'ambiguïté, la résolution de l'intrigue en laissera plus d'un perplexe par son apparence, par son absence, on va dire, apparente de logique. Mais les apparences sont trompeuses. La cinéaste n'est pas avare en symbolisme, en sous-texte freudien et références explicites au cinéma qu'elle aime, hein, qui irait de La nuit du chasseur à Bergman, en passant par plein d'auteurs fantastiques, hein, mais ne cherche pas à faire sens à tout prix, ou plutôt à orienter son récit vers un sens linéaire. Pourtant, Innocence n'est pas l'objet ésotérique et un télo tant redouté. Quelque chose de simple, de primitif et pur dans sa manière de filmer la nature et ses éléments qui la composent et l'animent, entre naturalisme et maniérisme, invite le spectateur à s'immerger dans ce conte initiatique. Alors, des images persistent, hein, comme autant de flashs qui collent à la rétine, des lampadaires éclairant un chemin, des pieds menus dans l'eau claire, une petite fille sortant d'un cercueil, un escargot sur une feuille. À ce titre, d'ailleurs, le travail du chef opérateur Benoît Déby, hein, d'ailleurs chef opérateur de Gaspard Noé, hein, est vraiment stupéfiant. Chaque cadrage est élaboré avec un soin maniaque, pensé comme une toile impressionniste, au risque d'étouffer le film, engoncé parfois dans un trop-plein de cinéma. Mais disons qu'au sein d'un cinéma français parfois étriqué, hein, l'ambition dont fait preuve la réalisatrice est salutaire.
J'espère que vous serez heureuse ici et vous apprendrez à aimer tous les animaux du parc. Allez, venez avec moi. Nous sommes toutes les fruits d'une même force qui a fait surgir la vie d'abord dans la mer, puis dans les airs et enfin sur la terre. Qu'est-ce que c'est, ça?
Une biche.
Et ça?
Un renard.
Et ça?
Un renard.
Et vous voilà ici. Vous êtes l'espèce la plus évoluée aujourd'hui. Mais la création s'améliore sans cesse, et les enfants, dans quelques années, seront sûrement très différents de vous. Mais pour ça, il faut que plusieurs générations se reproduisent.
Le film s'ouvre par une scène étrange. Hein. Une fillette, Iris, sort d'un cercueil et est admise provisoirement dans une école un peu irréelle où l'on enseigne donc la biologie et la danse. Comment en est-elle arrivée là? Nous n'en saurons rien. L'entrée dans cet établissement, retirée du monde, est perçue d'un point de vue métaphorique au choix comme une naissance, une résurrection ou éventuellement comme le passage dans une autre dimension. Ultérieurement, on assistera à la sortie aussi, qui se déroulera dans des circonstances tout aussi étranges. Entre-temps, la réalisatrice filme son petit monde avec un regard singulier. En effet, une douce perversité se dégage de cette œuvre à l'atmosphère ouatée. Un léger décalage persistant insuffle un parfum constant de subversion à ce film faussement paisible. Une menace permanente plane sur nos chères têtes blondes, qui rapproche donc Innocence des meilleurs films fantastiques. Alors, je pense notamment à Suspiria, qui est quand même une référence écrasante, mais très présente, notamment avec cette absence-présence de la directrice, qui est un clin d'œil. Mais surtout, on va dire, au splendide trip mystique de Peter Weir, Pique-nique à Hanging Rock. Alors voilà, des œuvres qui ont su capter les peurs intimes et inconscientes de l'enfance. Alors, mais chez Lucile Hadzi Halilovic, le suspense est diffus, abstrait et pourtant très efficace. L'absence d'explication fait monter en crescendo une angoisse qui continue à faire son chemin après la projection. Le fantôme de la pédophilie est aussi au cœur du récit, mais en marge, toujours hors champ. Reste que cette présence qui interroge notre regard en tant que spectateur finit par nous mettre mal à l'aise. Et ce n'est pas une des moindres qualités de ce beau film très troublant et qui, plus de 20 ans après, parce que le film est réalisé en 2004, toujours assez impressionnant.
Et ce film est disponible en VOD et en DVD, j'imagine.
Il est disponible en DVD Blu-ray chez Potemkin avec un autre film de la réalisatrice qui s'appelle Évolution.
Sachant que c'est une réalisatrice un peu confidentielle, hein, il faut le dire, autant Gaspard Noé, son ex-compagnon, peut arriver à convaincre des spectateurs de venir voir ses films, c'est un peu plus dur pour
Lucile Hadzi Halilovic. Et puis elle est allée de plus en plus vers une radicalité, voilà, c'est un peu ça aussi. Son dernier film, c'est peut-être le plus expérimental, héroïque, et logiquement, c'est celui qui a le moins bien marché.
Ouais, mais ce sont deux réalisateurs sans concession, et ça, c'est plutôt appréciable.
Au revoir.
Au revoir.
Ce
s'impose.
Mais pour quelle raison?
Qu'est-ce que vous racontez? Mais qu'est-ce que c'est que cette histoire?
Je ne connais pas la réponse moi-même. Comme vous êtes bizarre.
Oui!
C'est difficile de répondre.
C'est une plaisanterie!
On se retrouve la semaine prochaine, toujours avec nos séries. Moi, je vous parlerai des génériques de Sacha Guitry.
Moi, je vous parlerai du Voyageur de l'espace, donc en retour en 1960, pour voir 2024.
Et puis, t'as aussi un film, Manu.
Écoute le temps de Alante Cavaïté.
À la semaine prochaine, et bel été.